Et pour commencer, je vous disais qu'on avait parlé de l'actualité de la recherche. Eh bien, on parle exactement de l'actualité de la recherche du magazine La Recherche. La revue française risque de disparaître, Natacha.
Oui, La Recherche, c'est un mensuel de vulgarisation scientifique qui vient de fêter ses 50 ans. Et c'est une plateforme de communication importante entre la science et le grand public. Elle met en avant la parole des chercheurs qui sont invités régulièrement à prendre la plume. Cette revue appartient à Claude Pédriel, le grand patron de presse, qui est également propriétaire du magazine Science et Avenir, dont nous sommes partenaires, et à la ligne éditoriale différente. La direction a annoncé vouloir fusionner ces deux titres en une seule et même revue, baptisée Science et Avenir, la recherche. Alors la société des rédacteurs s'y est fermement opposée. Philippe Pageot est le rédacteur en chef du magazine La Recherche. Il parle d'un appauvrissement de l'écosystème médiatique scientifique.
Il y a deux explications. Il y a l'explication évidemment financière, puisque La Recherche, comme toutes les autres groupes de presse et les autres journaux, subit en plein la crise de la presse, qui est tout à fait générale. Et évidemment, par-dessus ça, la crise du Covid n'a pas amélioré les choses. Donc, la direction a profité un peu de cette occasion pour dire, ben voilà, on va un peu rationaliser, et on va unir ces deux journaux très différents pour faire une sorte de grand pôle science. Donc ça, c'est la raison plutôt financière, et la raison éditoriale, justement, la manière dont la direction le présente, c'est prendre le meilleur des deux mondes, et de faire un grand journal des sciences qui regrouperait à côté d'articles grand public, des papiers plus du type la recherche, c'est-à-dire avec des interviews de chercheurs. La crainte, c'est que, évidemment, fondre deux mensuels comme ça, un gros et un petit, puisque évidemment Science et Avenir est plus grand public et beaucoup plus que la recherche, c'est qu'on se retrouve à disparaître complètement, et puis de perdre aussi notre identité, puisque évidemment la partie la recherche se retrouverait en quelques pages à l'intérieur de Science et Avenir. La crainte également, c'est que le lecteur ne s'y retrouve pas. Donc on pense que ça conduirait inévitablement à la disparition de la recherche, alors que c'est à la fois une revue pluridisciplinaire d'autre qualité qui a fait rayonner la science française, un lieu de dialogue indispensable aujourd'hui entre science et société, et puis la pandémie du coronavirus nous avait montré à quel point ces lieux de dialogue étaient importants. On a bien vu comment la presse de l'immédiat avait pu s'emparer de certaines nouvelles liées au coronavirus pour raconter beaucoup d'intrigues. C'est ça donc l'expiration de la recherche, c'est une sorte d'abandon, un renoncement au détail, la complexité. La science, c'est la méthode scientifique, c'est quelque chose qui demande de l'analyse. Et donc c'est vrai que dans le paysage actuel de la science, ce serait vraiment extrêmement dommage.
Alors nous avons contacté le directeur éditorial du groupe, Pédriel, qui n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Une pétition a été mise en ligne, elle a été signée par plus de 200 chercheurs, dont de nombreux prix Nobel.
Voilà, le lien vers cette pétition, ainsi que vers différentes études, comme chaque jour, vous pouvez les retrouver sur le fil Twitter de La Méthode Scientifique, @lamethodefc. Vous pouvez la signer également, elle a été signée par pas loin de 3000 personnes pour le moment. Et puis je vous précise que mercredi prochain, pas demain, la semaine prochaine, nous consacrerons une émission spéciale à ce sujet, mais plus généralement à la crise de la presse scientifique après le rachat de Science et Vie par Rewild, maintenant la probable disparition de la recherche, quelle place pour les magazines et la presse scientifique en France, ce sera le thème de notre émission de mercredi de la semaine prochaine. Et on passe au bref. On fait un point sur l'épidémie de Covid. Deux nouveaux foyers épidémiques ont été découverts à Rome.
Oui, il s'agit d'un hôpital et d'un immeuble qui a été placé en quarantaine. On compte 104 cas positifs pour 5 décès. Rome a tout de suite mis en place une enquête épidémiologique pour remonter aux différentes contaminations jusqu'au 1er mai. Les foyers sont sous contrôle et semblent ralentir, nous disent les autorités sanitaires, mais la vigilance reste de mise.
Selon une étude parue hier dans The Astrophysical Journal, il pourrait y avoir pas moins de 36 civilisations extraterrestres, mais intelligentes, dans la Voie lactée.
Alors c'est évidemment très hypothétique, mais ce duo de chercheurs anglais développe un concept, la limite copernicienne astrobiologique. Alors pour estimer le nombre de civilisations intelligentes et communicantes dans notre galaxie, ils se sont appuyés sur le seul exemple que l'on connaisse, l'apparition de la vie sur Terre. Ce type de vie s'est développé dans un environnement riche en métaux et a pris environ 5 milliards d'années pour apparaître. Ils ont aussi pris en compte les probabilités d'étoiles qui hébergent dans leur zone habitable des planètes semblables à la nôtre. Alors sur ces 36 candidats, le plus proche serait à 17 000 années-lumière de nous. À une telle distance et avec nos technologies actuelles, impossible d'imaginer la moindre prise de contact.
Et pour conclure, selon une prépublication sur le site BioArchive, des chèvres génétiquement modifiées peuvent produire dans leur lait des médicaments contre le cancer.
La plupart des anticorps monoclonaux thérapeutiques sont produits dans des cellules de mammifères cultivées en laboratoire. Difficiles à fabriquer, ces protéines sont donc extrêmement coûteuses. Le cetuximab, par exemple, c'est un traitement contre le cancer de l'intestin et il est produit par des cellules de souris génétiquement modifiées. Une équipe néo-zélandaise a cherché à en fabriquer dans des volumes plus élevés, avec des chèvres transgéniques capables de produire cette molécule dans leurs glandes mammaires. Alors selon ce papier, une chèvre produit environ 10 grammes de cetuximab dans chaque litre de lait. Alors chaque année, une chèvre produit environ 800 litres de lait. Les auteurs y voient donc une solution pour produire à grande échelle des anticorps monoclonaux thérapeutiques à moindre coût.
Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences.